Sortie de boîte. Sortie de boîte, Nancy Chapuis.
J'ai rencontré mon invité à Brosse-au-Cours, à son domicile, alors qu'il neigeait. Après avoir eu quelques problèmes pour atteindre sa maison dans une zone résidentielle, je découvre mon invité, pelle à la main. Il a eu la gentillesse de me déblayer une place de parc. Ce patron d'entreprise qui compte une soixantaine d'employés m'accueille le rouge aux joues, bonnet vissé sur la tête, moon boot et doudoune complète la tenue. Il me conduit à l'étage en ascenseur pour causer au chaud dans la salle de réunion de Sotoco, Suisse, un jardin d'hiver qui porte bien son nom pour l'occasion. Après un café, forcément, mon invité m'explique son parcours qui a débuté, il le dit lui-même, dans une tasse à café. Anthony Jenner, bonsoir.
Bonsoir.
Anthony Jenner, en préparant cette émission, vous m'avez donc dit que vous êtes né dans une tasse à café. Pourquoi ?
J'ai toujours connu cette activité puisque mon père a créé cette société il y a 48 ans, en ayant 37 depuis... Tout bébé, j'ai toujours vu mon père avec des gobelets, du café, des machines pour essayer de satisfaire ses clients.
Donc vous êtes désormais l'actionnaire principal de plusieurs sociétés en Alsace qui comptent une soixantaine d'employés ici à Brosse-au-Cours. L'odeur du café, ça vous a jamais dégoûté ? Vous n'avez jamais été gavé par cette société qui a dû prendre beaucoup de temps, votre père ?
Non, j'ai eu beaucoup de chance qu'il était très présent. Il a toujours su associer famille et travail et je pense que c'est sans doute le succès de son entreprise aujourd'hui.
Vous êtes installé en Suisse il y a environ 3 ans. Pourquoi avoir développé ici une filiale Sotoco Suisse ?
Alors en arrivant en Suisse, j'avais forcément l'œil qui traînait, mais je n'avais pas du tout l'intention de créer une société. J'avais largement assez de travail avec les deux autres. Mais on a pu observer qu'il y avait réellement de quoi améliorer la qualité du café dans les entreprises. Je me suis renseigné, on a bien regardé et puis on a décidé de se lancer avec ma femme, donc il y a maintenant de ça 2 ans.
Pour le moment, la société est basée dans votre garage. Ça fait d'ailleurs sourire votre père aujourd'hui de retraité, de vous voir, vous et votre épouse, monter votre propre entreprise à la maison.
Exactement, puisque il y a 48 ans, quand il a commencé, il avait 20 ans et il a commencé dans la chambre de ses parents. Donc il était tout seul et aujourd'hui, on est 60 personnes. Donc finalement, de se relancer un challenge en redémarrant une nouvelle activité sur un nouveau secteur, même si on a l'expérience des 48 années et les gens qui ont réellement ce savoir-faire, ça le fait sourire puisqu'il me dit « ça me rappelle de bons souvenirs et je te souhaite la même réussite ».
Sotoco Suisse, fondée en fin 2015, début 2016, commercialise donc des automates à boissons, à sucreries, mais surtout des machines à café. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ?
Là, je dirais, c'est vraiment l'expérience. Avec une machine identique, on peut faire du bon ou du mauvais café. Je dirais que le savoir-faire humain qui va régler la machine, les meules, c'est extrêmement important. Et deuxième point, la qualité du café. Aujourd'hui, on a décidé de le torréfier nous-mêmes, d'avoir ce savoir-faire depuis le café vert jusqu'au moment où il est infusé dans la machine et que vous puissiez l'avoir dans votre gobelet. Donc on maîtrise la chaîne totale et ce savoir-faire-là que j'importe en Suisse doit faire la différence.
Le fait d'être à Brosse-au-Cours pour des clients jurassiens, ça c'est important aussi ?
Oui, j'ai vraiment compris que d'être local, c'est important dans l'activité, que ce soit dans le Jura ou ailleurs, parce qu'on est dans une activité de service, et dans le service, c'est la proximité avec le client qui est le plus important. Il faut être réactif, il faut être à l'écoute, il faut pouvoir modifier la qualité du café en fonction du goût des clients, et pour ça, il faut être à leur côté.
En Alsace, vous êtes aussi connu pour une invention de votre père qui a conquis la compagnie Air France. C'est des gobelets pré-dosés.
Ce sont des gobelets pré-dosés. Donc vous imaginez un gobelet à l'intérieur duquel on met déjà la poudre de café, de thé, de chocolat ou de cappuccino ou autre boisson. Et vous suffit d'un peu d'eau chaude pour finaliser votre boisson. Donc ça a séduit les compagnies aériennes qui, elles, n'ont ni temps ni de place. Donc c'était vraiment le produit idéal et on est aujourd'hui présent dans 36 pays.
Donc des millions de gobelets circulent au-dessus de nous ?
Oui, tout à fait. On fabrique à peu près 40 millions de boissons à l'année, ce qui représente 160 000 par jour. Et à ça vient encore s'ajouter l'activité distribution automatique. On en fait encore également une dizaine de millions. Donc voilà, quand je vous parlais d'expérience, on sait de quoi on parle et nos clients le reconnaissent.
Vous l'avez dit, depuis le début de l'année, vous vous êtes lancé dans un nouveau métier, la torréfaction. C'est vraiment l'envie de maîtriser toute la chaîne.
Oui, alors on faisait effectivement toute la partie café et il nous manquait un point, c'était vraiment la torréfaction que j'assimile presque à de l'œnologie pour le vin. Et bien souvent, des clients nous demandaient est-ce qu'on peut l'avoir avec un peu plus d'amertume, avec un peu plus d'acidité. J'étais dépendant de mes fournisseurs. Aujourd'hui, je peux aller encore plus loin dans la démarche de vraiment m'adapter à la demande du client.
Je vous propose maintenant de découvrir un peu mieux ce toco suisse et surtout le travail de votre technicien. C'est dans l'étage inférieur de votre maison que l'on découvre les distributeurs à boissons et à confiseries. Il y en a de toutes les grandeurs, de la machine à café au distributeur plus imposant. Et pour obtenir le bon goût du café, il faut entreprendre quelques réglages fins et c'est le travail effectué par Christophe Angèle.
Sortie de boîte.
Chaque café doit être réglé d'une certaine façon, donc en fonction de la granulométrie du café en lui-même, de sa torréfaction, en fonction de plein de critères au niveau du chauffage, au niveau de la cuisson, on peut parler de cuisson, parce qu'en fait c'est une recette, c'est pour ça qu'effectivement parlons de cuisson. Ensuite, la mouture en elle-même, donc dans le distributeur, on peut régler des moutures plus ou moins fines, qui donnera de la force, de l'arôme, de l'onctuosité. On a aussi un phénomène de crème qui apparaît. Donc,
cette petite mousse qu'on voit sur
le café.
Voilà,
c'est ce qu'on appelle. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Donc la crème qui effectivement récupère les arômes au moment de l'infusion, hein, en fonction d'une certaine pression et d'une certaine température.
Et ça, justement, lorsque vous recevez les machines ici et que vous allez les régler pour le client qui a acheté l'une de ces machines, vous allez effectivement régler tout cela. Vous réglez ça comment? Vous pouvez me le montrer sur une des machines?
Donc on a plein de parties mécaniques. Mm-hmm. Donc effectivement, on a...
Donc là, on est dans le haut avec la partie où il y a le grain de café.
Voilà, donc en fait, on y verse...
En rappelant que c'est le café torréfié par la maison.
Exactement. Donc on y verse le café donc sorti du sachet. À ce moment-là, la machine va couper, donc broyer tout ce qui est grain. Mm-hmm. On va broyer le grain. On va l'affiner grâce à cette molette, hein, plus ou moins fort, pour avoir plus ou moins de force, plus ou moins de qualité. Donc effectivement, ensuite on a la partie moulue, de ce qu'on appelle la mouture, qui va sortir et s'insérer dans une presse. Et là, à ce moment-là, mécaniquement, on va comprimer afin d'y faire une galette. Et la galette, effectivement, sera infusée avec de l'eau qui arrive sous pression, à une certaine pression et une certaine température.
Tous ces réglages, ils ont été définis une fois pour toutes. Au goût, vous allez encore affiner les choses?
Effectivement, il y a le goût, il y a l'aspect visuel. Et tout ça, en fait, effectivement, c'est des critères. Il y a l'expérience. L'expérience fait beaucoup. Hein, et puis aussi, en fonction du café, on fait plusieurs essais, plusieurs recettes et plusieurs infusions.
Il y a combien d'années que vous travaillez sur ces machines?
Donc moi, ça va faire 15 ans. Donc j'entame ma 15e année et avec tous les jours, plus en plus de plaisir.
Sortie de boîte.
Un reportage réalisé par Jean-Michel Probst chez vous, Anthony Génère. Vos techniciens parlent de plaisir au travail. Dans le premier rendez-vous, vous évoquiez vos entreprises comme une grande famille. C'est important, ces notions-là?
Oui, je pense que c'est également ça le succès, c'est que des gens qui se sentent bien dans une entreprise, qui viennent le matin avec le plaisir de venir travailler et repartir le soir avec le sentiment du travail bien fait, sont des employés qui vont bien travailler et qui vont rester dans le temps. Dans l'entreprise en Alsace, on a des gens qui sont là depuis plus de 30 ans et ça se ressent sur la clientèle, puisque pareil, on a des clients qui sont là depuis également plus de 30 ans. Donc que ça soit les employés ou les clients, faut les chouchouter pour qu'ils restent et qu'ils soient satisfaits et qu'on puisse continuer dans l'avenir.
Alors comment ça se passe, le chouchoutage ?
C'est simple, c'est que je suis à l'écoute et du client et de mes employés. Et bien souvent, ils ont les solutions, mais ils n'osent pas les appliquer. Donc de les écouter et de leur dire « essaye », ça ne marche pas à tous les coups, mais je dirais que 9 fois sur 10, ils savent de quoi ils parlent et si on leur fait confiance, ils savent avancer.
En créant ce toco suisse, vous avez donc remarqué des différences sensibles entre les marchés suisses et le marché français ?
Alors, il n'y a pas de différence en termes de goût ou en termes de technicité. Il y a une réelle différence en termes de concurrence. Le marché français est très concurrencé. On va casser les prix, on se bagarre qu'à coup de prix. Et la différence, c'est qu'en venant dans le canton du Jura, je me suis aperçu qu'on n'était pas dans une histoire de prix, mais qu'on parlait qualité, on parlait réactivité. Et là, j'entendais toutes les qualités dont j'ai besoin pour être heureux, pour bien travailler. Donc c'était assez logique de pouvoir s'inscrire dans ce principe-là. Et puis en apportant notre savoir-faire, dont Christophe a parlé avant, pour avoir une qualité du café optimale, il n'y avait pas de raison que ça démarre pas.
Au niveau législation, il y avait quand même pas mal de différences, j'imagine.
Oui, au niveau de législation, c'était assez différent. Donc c'est pour ça que la société qu'on a créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans, la première année, on l'a vraiment fait avec un très gros client, mais on n'a pas voulu communiquer dessus puisqu'on voulait vérifier que légalement, on puisse clôturer le bilan avec notre fiduciaire, ce qui a été le cas et qui a été le déclencheur de nous dire... C'est parti, on embauche et on va aller écouter ce que les sociétés ont à nous dire et pouvoir voir comment on peut y répondre. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se développe très bien.
Comment on s'y prend justement en tant qu'Alsacien fraîchement établi dans le Jura pour se faire sa place ?
Ah ben alors là, pour le coup, c'est pas grâce à moi. Je dirais merci à vous, parce qu'on a été accueillis incroyablement. D'abord nos voisins, ensuite la population dans l'ensemble. Je suis fan de sport, j'adore le HCA, d'ailleurs un petit clin d'œil, bravo à l'équipe, à Jordan Oert et tous ses collègues. Mais voilà, je me suis intégré, je vais au match, j'aime ça, j'ai appris à connaître le hockey. Et puis voilà, donc je crois que quand on aime les gens, les gens nous le rendent. Et aujourd'hui, je me sens jurassien comme vous, comme tout le monde.
Est-ce que embaucher des personnes d'ici, de la région, ça aussi c'était important ?
Bien sûr. On parlait de local avant, les sociétés, il faut pouvoir les rassurer et puis parler le même langage. Moi, je fais parfois des erreurs où je dis encore 70 et 90, je m'applique à faire du 70-90. C'est des petites choses, mais je pense que d'avoir des gens locaux qui comprennent la culture de la région, ça s'intégrera mieux pour créer un partenariat avec nos clients.
Est-ce qu'en l'espace de 2 ans, Sotoco Suisse a réussi à convaincre des clients jurassiens, justement ?
Oui, on a assez rapidement convaincu des clients au local, notamment tout dernièrement l'Office des véhicules qui nous fait confiance également, mais d'autres, des associations. On est dans une société, dans une activité où il y a des contrats avec des échéances. Ces contrats, on en a déjà signé pas mal. Maintenant, on attend les échéances pour placer les machines. Donc, on sait que les prochains mois seront excellents et qu'il va falloir gérer la croissance. Et c'est souvent ça le plus dur dans une société, c'est de garder la qualité tout en grandissant.
L'envie, ça se développer sur l'ensemble de la Romandie ?
Pardon ?
C'est de se développer sur plusieurs cantons, plus loin que le Jura ?
Non. J'attache vraiment de l'importance au local. On doit être auprès de nos clients. Donc, le canton du Jura est bien assez grand si on veut bien faire notre métier.
Donc, pour le moment, Sotoco Suisse, ça se passe au domicile familial, à la maison. Ça devient compliqué, un peu trop serré ?
Oui, on a beau avoir construit 2 garages, on a du mal à les ouvrir, les palettes débordent, donc effectivement, on a un projet à très court terme de pouvoir s'exporter sur Courgenay, où on a pour projet de construire un bâtiment de 600 m² avec une partie bureau, un showroom pour accueillir nos clients et toute une partie stockage ou atelier technique.
Votre vision pour l'avenir de Sotoco Suisse, c'est d'atteindre la même dimension que le site alsacien ?
Non, il faut s'adapter au marché local. En Alsace, on a effectivement plus de 1000 automates en gestion, mais il y a beaucoup plus d'entreprises par la taille, puisque le secteur géographique est beaucoup plus grand. Dans le Jura, on a moins d'entreprises, même si elles sont souvent très qualitatives avec beaucoup de monde. Mais je pense que on est plus sur un secteur géographique beaucoup plus réduit, donc d'atteindre peut-être un jour 10, 12 personnes sera déjà très très bien.
C'est donc votre épouse qui est la gérante de la société suisse. Travailler en couple, c'est C'est facile, ça se passe bien, c'est facile à vivre au quotidien.
Oui, globalement, j'ai beaucoup de chance. Elle écoute et elle applique très, très bien. Ce qui est un petit peu rigolo, c'est qu'effectivement, ben, on a chacun nos journées. On ne se voit pas la journée, donc on ne peut pas se taper dessus. Mais en rentrant le soir, pendant l'apéro, j'ai les offres qui commencent à s'aligner. Puis on en discute et puis on essaie de trouver les meilleures solutions. Mais globalement, ça se passe très bien.
Et puis vous arrivez à dire stop ? On laisse de côté nos entreprises, on laisse de côté le travail.
C'est pour ça qu'on a des enfants. À un moment, on peut dire stop et puis s'occuper d'eux. Et encore une fois, je vous parlais de sport avant. Et pour moi, c'est très important. Mes deux enfants font beaucoup de sport. On les accompagne là-dedans. Et ça nous permet de s'évader et de penser de temps en temps à autre chose pour revenir encore plus fort le lundi matin.
En préparant l'interview, vous m'aviez dit que la création de cette entreprise de A à Z vous avait permis de remettre en question vos habitudes.
Oui, effectivement, parce que actuellement, avec les deux sociétés, je vous ai eu la chance d'avoir de pouvoir reprendre des sociétés déjà d'une certaine taille. C'est vraiment du pilotage, alors qu'avec l'entreprise telle qu'on la voit sur Toco Suisse, où finalement on crée de rien, il a fallu vraiment changer mes habitudes et vraiment bousculer pour voir que parfois il faut changer les habitudes. Voilà.
Repartir de la base.
Oui, exactement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Repartir de la base. Et on s'aperçoit que parfois, dans l'autre entreprise qui est beaucoup plus grosse, on fait des erreurs. Mais là, en repartant de la base, ça me permet de revenir le lendemain et de dire pourquoi on fait ça. Donc, c'est important.
Et c'est crisant de créer son entreprise, du coup ?
Vraiment. Il y a vraiment quelque chose de passionnant. On est tout le temps dans l'imagination, on est en train de créer, et tout en se disant qu'il y a quand même une réalité économique derrière, donc ça a ses limites. C'est passionnant.
Je vous propose maintenant de pousser la porte de la marque chaudefonnière Corum. C'est la chronique horlogère de Marie-Lise Saillard. Pile à l'heure.
Pile à l'heure. Comment intéresser des jeunes de l'école obligatoire au patrimoine horloger ?
C'est la bonne question, ça !
Merci. La marque Corum, installée à La Chaux-de-Fonds, s'est approchée d'enseignants en art visuel qui ont fait plancher leurs élèves sur ce concept. Imaginez une montre qui pourrait entrer dans la collection Bubble de Corum. Frédéric Layani est le directeur marketing et artistique de la marque.
Alors c'était vraiment une page blanche au niveau créatif, donc c'était la première fois qu'on leur donnait autant de liberté. On leur a donné carte blanche surtout, et après ils avaient des documents, comme je les envoie à des designers. Je suis allé dans les classes présenter complètement la marque Corum, et suite à ça je leur ai donné du matériel de design pour qu'ils puissent travailler sur leur montre.
Les élèves de 14 classes ont bossé pendant 6 mois sur leur projet. Ils ont chacun présenté le dessin de la montre qu'ils ont imaginé. En expliquant le concept, on retrouve Frédéric Layani.
Les résultats nous ont bluffés. Alors, ce qui était très intéressant, c'est que la phrase qui revenait tout le temps, les gosses nous disaient « j'ai pas eu d'idée, voilà ce que j'ai fait ». Et chaque fois, je leur disais « si t'as pas eu d'idée, chapeau ». Ils avaient tous des grandes idées qui sont parties dans tous les sens, mais qui étaient très structurées, étonnamment, parce qu'il y avait un vrai travail de fond. Et c'était la grande difficulté, justement, de choisir. Parce qu'il y avait vraiment des très, très belles choses qu'on aurait même pu utiliser pour Corum. En tout cas, il y avait des idées de fond. Dans certains cas, par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quelques copies sur Internet, ce qui est normal. Donc, on essayait d'éviter qu'il y ait trop de copy-paste, tout simplement.
Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que tout ce travail a donné lieu à un concours. Tous les projets des élèves ont été évalués et il a fallu faire un choix. La lauréate s'appelle Justine Guiblin.
J'ai fait une montre avec les aiguilles qui tournent à l'envers parce qu'en allant chez le dentiste, j'ai vu une grosse horloge où les montres elles tournaient à l'envers, enfin les aiguilles. Je voulais pas faire quelque chose de terne, alors j'ai mis des couleurs.
Et puis il y a un slogan.
Le monde tourne à l'envers parce que j'ai pensé que ça allait bien avec le fait que les aiguilles elles tournaient à l'envers en fait.
Ce slogan, tu l'as mis sur le cadran ?
Oui, sur le cadran et sur le bracelet aussi.
Le directeur marketing et artistique de la marque est très enthousiaste face au projet de Justine.
Le projet qui a été choisi était un vrai projet Bubble, complètement dadaïste, décalé, original. Il fallait être très audacieuse pour faire un projet pareil. Surtout le fait d'avoir une vision à l'envers, je trouve très intéressante. Donc nous, on va essayer de la reproduire maintenant pour l'élève. Ça va prendre un certain temps. Je vais demander à l'élève de venir en fonction des différentes étapes aussi pour qu'elle voit comment on va créer maintenant sa montre.
Finalement, le prix pour elle, oui, c'est qu'elle elle remportera sa montre qui va être réalisée chez Corum.
Oui. Donc ça sera une pièce unique pour elle. Ça sera la seule montre au monde qui aura ce visuel.
Et Et ouais, elle va en faire des jaloux, Justine Guiblin, quand elle aura sa propre bubble au poignet. Allez, le mot de la fin pour Frédéric Layani. Est-ce qu'il trouve, lui, que le slogan « Le monde tourne à l'envers » transmet un message pessimiste ?
Non, parce que c'est peut-être nous qui tournons à l'envers. Et moi, j'aime bien. Non, au contraire, c'est une vision différente. Et ça montre qu'un jeune peut avoir une vision différente que simplement la pensée unique. Au contraire, c'était plutôt très très positif pour moi de voir que des gens ont une vision différente de la vie.
Pile à l'heure.
La chronique horlogère évoquait donc la nouvelle génération. Anthony Jenner, vous avez deux filles de 7 et 9 ans. Elles sont d'ailleurs dans le studio en face. Vous avez envie de leur transmettre vos entreprises, Sotoco ?
J'ai surtout envie de leur transmettre la passion de l'entrepreneuriat. Après, quel que soit leur rêve, de toujours avancer, de toujours trouver des solutions pour aller au bout de ses rêves, c'est vraiment ça que je souhaite leur transmettre. Après, si c'est dans le café, ça sera avec plaisir. Si c'est dans l'architecture pour l'une, si c'est peut-être pour faire clown pour l'autre. Voilà, non, l'intérêt, le but, c'est vraiment qu'elles aient les armes pour se battre.
Anthony Jenner, nous arrivons au terme de notre émission Sortie de boîte. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes.
Merci à vous.
Vous retrouvez l'ensemble de cette interview sur notre site internet en podcast. La semaine prochaine, Sortie de boîte sera consacrée à la finance. Nous recevrons le nouveau directeur régional de UBS Romandie, le Neuchâtelois jurassien d'origine, Cyril Meury. Je vous souhaite une excellente soirée.